Actu SF, les podcasts.
Bonjour. Désolé, on a des problèmes d'image, donc on va commencer sans les images et on va essayer de se débrouiller. Alors que je reprenne mes esprits parce que c'est un peu compliqué. Alors je vais vous dire, on m'a un peu piégé avec le titre de la table ronde là, et on a essayé de faire un programme en fonction de ça parce que le biomimétisme c'est quelque chose de très précis quand même, et on va élargir ça à l'idée au départ du corps de la cité, ou puisque c'est le sujet cette année, le corps ou la cité comme corps, et puis comment on va végétaliser ce corps, puisque c'est une grande question, et on ira avec deux spécialistes qu'on a ici jusqu'à la question de l'agriculture dans la ville. Je vous propose de vous présenter en fait pendant que j'essaie de terminer, comme ça va m'aider. Si vous pouvez chacun vous présenter, ça sera très bien, merci.
Alors bonjour à tous et toutes, du coup moi je m'appelle Baptiste Grard, donc je travaille à l'INRA et à AgroParisTech. L'INRA c'est l'Institut National de Recherche Agronomique, et j'ai fini l'année dernière une thèse sur les potagers sur les toits, où je m'occupais d'une expérimentation sur ce sujet. Et maintenant, je travaille, donc comme Agnès d'ailleurs, sur la thématique donc générale de l'agriculture urbaine, où je co-coordonne un projet de recherche où on s'intéresse à des fermes qui s'implantent en ville. Et d'ailleurs, un des sites qu'on suit est sur Nantes. Voilà.
Donc, bonjour, Agnès Lelièvre. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur en agronomie dans l'école AgroParisTech. Et donc, j'effectue ma recherche à l'INRA, dans la même équipe que Baptiste. Et donc, je travaille en agriculture urbaine aussi, principalement à regarder comment fonctionnent les fermes urbaines et comment est-ce qu'on peut définir, évaluer leur durabilité. Est-ce qu'elles sont durables? Et donc, voilà, tout simplement, après une vie passée sur les grandes cultures, aujourd'hui, je me retrouve en ville.
Bonjour, I'm Kish Johnson. I'm a writer mostly of fantasy, so I'm the odd man out here. I have written some about cities. I researched extensively a novel that I worked for 7 years and ended up not finishing, trying to build a 17th century city, a utopian anarchy, which turns out to be hard to do.
Thank you. Alors, en 1900, il y avait 14% de l'humanité qui vivait dans des villes. On pense qu'en 2050, ce soit 70%. Et on voit à quel point l'humanité est en train de s'urbaniser dans tous les sens du terme. La science-fiction, elle a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. La question de la ville, que ce soit dans la ville-planète à la Trentor, que ce soit les villes oppressives ou parfois, heureusement, les villes joyeuses de demain. Mais cette conférence, elle parle des jardins de Babylone. C'est amusant, c'est pas de la science-fiction, on est carrément dans le passé. Et on est sur un fantasme qui nourrit pourtant tout l'imaginaire depuis. Alors c'est une des sept merveilles du monde antique. On pense que c'est le fait qu'il y ait des terrasses avec des jardins partout, mais en fait non, c'est une grande structure de qui est plus un parc en fait, étagé, et qui émerveillait tous les visiteurs. Est-ce que pour vous, ce mythe du jardin de Babylone résonne dans votre travail et puis dans votre œuvre?
Alors, je ne sais pas si le jardin de Babylone résonne. C'est plutôt... Enfin, j'ai l'impression, moi, plutôt quand on regarde ceux qui, aujourd'hui, décident de s'installer, on peut être plutôt sur l'agriculture, mais même, on dirait, sur les parties d'espace vert, c'est plutôt un retour, c'est plus proche. On est plus sur un retour à la campagne, sur un espèce de mythe du paysan. Enfin, je ne suis pas très littéraire, enfin bon. Ouais. Mais on est plutôt sur du... Alors, c'était Voltaire, ça, donc avec son Candide. Et donc, on est plutôt sur cette époque-là où on retourne sur du... On s'imagine déjà que tout ce qui est naturel est bien, est bon. Et donc, je pense que c'est plutôt ça, en fait, comme retour. Le fait de quitter, finalement, un métier urbain enfermé pour se retrouver dehors, en contact avec la nature, et y retrouver, finalement, un bien-être et une naturalité qu'on a perdue.
Et pour moi, la manière dont ça résonne, c'est qu'en fait, ça me renvoie à une question qui était la question d'intérêt pour moi de base pour venir sur ce sujet du vivant dans la ville et du coup de la végétalisation de la ville. C'est vraiment la question pour moi de comment est-ce qu'on rend la ville perméable au vivant. Et du coup, pour moi, ce mythe pose vraiment cette question de on aimerait une cité idéale qui est verte absolument partout avec du végétal partout. Et la manière dont ça résonne pour moi, c'est de me dire comment concrètement est-ce qu'on fait ça ? Qu'est-ce qui va permettre ça et dans quelle mesure on peut réellement faire ça avec une ville qui reste vivable, qui reste avec des usages et des fonctions qui sont multiples. Donc,
I think that if we go back far enough, cities had plants all over them just because you couldn't keep plants out. For a long time, as cities grew, and I'm thinking specifically of London, which I've done a fair amount of research on, the green spaces were very, very mannered, very controlled. They were grass, they were alleys of trees, carefully selected. But the idea of public green space was scarce. We moved towards cities becoming grayer and more concrete, and we moved towards cities becoming bigger and bigger and people becoming isolated from the natural world and from the source of their food. And at some point we started to make the decision that green spaces were necessary again. And at first they were aesthetic. When you look at the plans for Washington, D.C., the green spaces were not about food or reminding us of nature. But by the 19th century, as we move into romanticizing nature, cities start romanticizing nature as well, and parks start to look like wild. And yet the city gets bigger. The wild is farther and farther away. So now we are at a place where we recognize the importance of both what I might call civilized green spaces, malls and flat lawns, and wild green spaces within a city. But meanwhile, the city is so large that we can't get to nature on our feet, and sometimes we can't get to nature in a car. I have no observation, that's just info.
Pour information, à Paris, le premier square, il ouvre en 1836. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas d'espace vert dans Paris. Alors, il y a eu un moment, les cimetières qui étaient un peu verdis. On trouve quelques espaces verts parce qu'il y a des abbayes qui ont un bout de jardin qui arrivent à préserver. Mais l'espace public vert, tel qu'on l'entend, c'est 1836. C'est quelque part même la Révolution. Avant, il y a des espaces verts, mais c'est les jardins du roi ou de sa mère, donc le Luxembourg... les Tuileries, les jardins du Louvre actuellement. Donc, il faut réaliser que on est bien, en effet, dans du jardin, c'est-à-dire dans de l'agrément qui parfois est ouvert au public ou pas. Mais on a l'impression, alors là, je vais vous poser la question, que l'agriculture a été chassée de la ville, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on met des murailles pour se défendre à la fin de l'Empire romain, on a l'impression que les paysans n'ont plus le droit d'entrer dans la ville autrement qu'avec la nourriture à consommer. Vous avez l'impression à quel moment on envisage de les ramener ?
Non, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu moins dichotomique que ça, mais je pense qu'il ne faut déjà pas oublier que sur une perspective historique, comme la plupart des villes avaient des ceintures maraîchères quand même qui était plutôt à l'extérieur de la ville, mais dont il y avait quand même une certaine perméabilité par rapport à la ville. Donc déjà, je pense que l'opposition n'était pas complète. Après, c'est sûr que nos villes se sont construites, et continuent malheureusement à se construire, majoritairement sur des espaces qui sont des espaces de production agricole. Et donc la ville a dévoré petit à petit ses ceintures maraîchères. C'est ce qui s'est passé à Paris, dans énormément de villes. Mais donc, de fait, à bon nombre de moments, l'agriculture s'est quand même retrouvée dans les interstices urbains, mais l'histoire et la manière dont on urbanise fait qu'au fur et à mesure, on chasse et donc on repousse de plus en plus loin cette limite. Et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas, c'est à l'heure actuelle des objectifs d'ailleurs au niveau étatique, mais on n'a pour l'instant pas refait la bascule d'arrêter d'artificialiser des terres et d'arrêter d'en grignoter. Mais de fait, l'agriculture faisait quand même pour partie de franges de la ville plutôt externe, mais malgré tout était dans certains interstices urbains du fait de ce grignotage progressif. Je sais pas si je réponds.
Oui, c'est vrai. Mais elle était exclue des sphères du pouvoir, parce que les bourgeois, il y avait les rôtisseurs, les marchands de vin, mais il n'y avait pas les agriculteurs, ils n'étaient jamais représentés dans la ville, on a l'impression.
Alors, il ne faut quand même pas non plus oublier que les marais, enfin le terme des marais, le maraîchage, ça vient justement des marais de Paris. Donc il y avait des maraîchers dans Paris jusqu'au 19e siècle. Ils produisaient dans Paris. C'est eux qui avaient une production extrêmement efficace. Bon, ils profitaient effectivement aussi du fumier de cheval, hein, soyons honnêtes, hein, avec tous les chevaux qui passaient. Il y avait de quoi chauffer et de quoi fertiliser un peu tout ça. Et donc on avait du maraîchage dans Paris, au cœur de Paris. Jusqu'à ce qu'il soit chassé, effectivement. Alors là, il y a un spécialiste, Jean-Michel Roy, qui est spécialisé sur cette question de l'histoire, justement, de comment le maraîchage s'est retrouvé sorti de la ville à cette époque-là, hein, et quels étaient les échanges qui se passaient entre la ville, entre l'intra-urbain et puis les périurbains, où la majorité de maraîchage se faisait, comme dit Baptiste. Mais il ne faut peut-être pas oublier, justement, s'il y a une ville qui s'est faite, c'est qu'il y avait de quoi nourrir des gens. Donc c'est pour ça que les villes sont sur les meilleures terres, entre guillemets. Là où on pouvait produire à manger, les gens se sont installés, il y avait de quoi nourrir une population croissante, et au fur et à mesure que la population croissait, ben, la ville grossit, parce que finalement, ben, on gagne plus d'argent à construire une maison qu'à faire pousser trois blés, quoi. Donc il n'y a pas de mystère.
La bétonisation est un vieux phénomène, en fait.
C'est rien de nouveau.
Mais juste un petit parallèle quand même intéressant là-dessus, c'est que les maraîchers justement du 19e à Paris sont quand même toujours à l'origine d'innovations techniques qui sont remis au goût du jour aujourd'hui, notamment par des gens comme Coleman, d'un point de vue agronomique, qui sont des personnes qui sont soit aux États-Unis, soit Jean-Martin Fortier, par exemple, au Canada, qui réutilisent ces techniques-là de maraîchers parisiens du 19e, qui sont maintenant réutilisées à l'heure actuelle par les maraîchers urbains, et qui étaient des techniques qui ont été inventées aussi parce qu'on était sur des formes d'agriculture très intensives, justement poussées par la pression foncière qu'on avait autour. Mais donc l'agriculture était bien quand même pour partie une composante de la ville. Après, petit à petit, le transport, les coûts, l'ouverture à la mondialisation a fait que ça a été définitivement chassé et quasiment anéanti dans la plupart des villes.
Ce qui veut dire aussi que la seule agriculture qui a survécu en ville, enfin, le plus longtemps, c'était celle qui rapportait de l'argent. Donc on produisait des fruits, légumes, on chauffait par le fumier, donc on avait des choses qui produisaient plus tôt ou plus tard. Et puis on avait, là, si on prend d'autres exemples, des choses, moi ça m'a toujours impressionné, les murs à pêche de Montreuil, on était dans la ville de Montreuil, contre les murs, quelques petits pêchers, où ils avaient des techniques très spéciales, ils marquaient, ils faisaient des dessins sur les pommes et sur les pêches, et ça se vendait même au Tsar, en Russie, enfin bon voilà, c'était extrêmement connu. C'est ce qui avait permis de défendre, ce qui permet qu'aujourd'hui il reste encore quelques murs à pêche, en plein milieu de la ville de Montreuil par exemple.
Faut pas hésiter à faire un commentaire.
The only thought I had was that transportation and agriculture and cities, the combination of those is inseparable. And as transportation becomes cheaper, then the agriculture moves farther out. If transportation becomes more expensive, agriculture moves closer in. But you have to have the transportation to manage, or you have to have local, very local agriculture to have a major city. But you can't do without one or the other in some relationship.
Avant d'arriver vraiment à l'agriculture urbaine, il y a quand même eu un mouvement à partir de l'après-guerre qui a été de construire des villes nouvelles à la campagne. Comme disait Alphonse Allais, il faudrait construire les villes à la campagne, l'air y est plus pur, et on l'a fait, ce qui était un gag, un bon mot au début à la fin du 19e est devenu une activité. Et puis il y a eu aussi la création des banlieues, qui sont des cités-jardins, cauchemardiaque par beaucoup de côtés, mais une maison, un jardin, une maison, je parle de la banlieue pavillonnaire, pardon, hein, je précise, une maison, un jardin, une maison, un jardin. On pourrait regarder d'en haut, c'est gris vert. Est-ce que c'est la pire manière de ramener la ville, amener la ville à la campagne quand on y fait des tours, ou mettre tout le monde dans un petit jardin, une petite maison? Est-ce des bonnes ou des mauvaises manières de retourner un peu au vert?
Je ne vais pas dire si c'est bon ou mauvais. Par contre, ce que je peux dire, c'est que sur certaines de ces banlieues pavillonnaires, si on va aux États-Unis par exemple, il n'était pas question que ces jardins qui étaient visibles soient productifs. C'était de la pelouse, que ce soit beau.
on est toujours dans le Louvre ou dans, enfin, de l'étuderie ou dans, finalement, c'est mon petit château, mon petit jardin.
D'où il y allait, en fait, sur une partie des maisons, il y a le jardin de devant et le jardin de derrière. Le devant, c'est celui qui montre à quel point on est bien et notre maison est belle et notre jardin est joli et l'herbe est coupée à ras, bien, bien propre. Et derrière, il y a la production alimentaire. Donc, on est, je ne sais pas si c'est bien ou bon ou si c'est idiot. Ou, je ne sais rien, c'était.
Alors, on a pas mal d'images qui circulent. J'ai essayé de montrer des jardins de Babylone d'aujourd'hui. Là, on est au Japon. Là, on retourne à Paris sur des projets visionnaires. On va voir une série de projets visionnaires avec ce fantasme, je pense, de la terrasse verte qui est présent dans énormément d'images. Ouais, c'est Paris 2050, ça, oui, voilà. Avant de parler d'agriculture, même, le verdissement, l'idée même de ramener de la végétation pour la végétation, souvent, avant même qu'il y ait l'idée de faire de l'agriculture, vous pensez que c'est... est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà.
Je vais pas répondre à la question de manière greenwashing ou pas, mais pour moi, c'est surtout une nécessité par rapport... On sait aujourd'hui, donc vous l'avez dit au tout début en introduisant le débat, mais... Aujourd'hui, le monde est majoritairement urbain. En Europe, on est autour de 70% de la population qui est dans les villes. On sait que nos villes, dans leur manière de se développer à l'heure actuelle, dans leur manière de fonctionner, ne sont pas durables en tant que telles. C'est-à-dire qu'elles reposent sur une consommation de ressources, sur un impact notamment en termes de pollution de l'environnement qui est beaucoup trop important. Donc du coup, au-delà de la question du greenwashing ou pas, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire de ces territoires quelque chose de durable, de résilient, et qui arrive à être un modèle qui puisse perdurer dans le temps. Donc dès lors, le panel de solutions qu'on a, parmi ce panel de solutions qu'on a, il y a la végétalisation de la ville qui permet, de par le fait qu'on va végétaliser une partie de ces espaces, de ramener un certain nombre de fonctions, notamment environnementales, qui vont avoir un impact positif et qui vont contrecarrer pour partie ou générer des fonctions qui permettront d'atténuer cet impact de la ville ou de la rendre plus résiliente certains aspects.
Et donc, quelles fonctions, par exemple, l'oxygène, alors, j'imagine bien, mais...
Il y a un certain nombre de fonctions auxquelles on peut penser, mais pour les classiques, et notamment sur les toitures végétalisées, c'est va être le fait de retenir de l'eau, donc éviter que ces espaces urbains qui sont extrêmement imperméabilisés, sur lesquels l'eau va ruisseler, donc déjà poser des problèmes potentiels de crue derrière, et surtout des problèmes de pollution des eaux, parce que plus l'eau va ruisseler, plus elle va charger en polluants. Donc petit a un rôle potentiellement de rétention d'eau. Le fait que le végétal en ville va pouvoir évaporer de l'eau, donc refroidir aussi potentiellement la ville, va éventuellement stocker du carbone, va filtrer une partie des polluants, va générer un certain nombre de services sociaux, pédagogiques, etc., de bienfaits pour les citadins. Enfin bon, tout un panel de services qui permettent de rendre ce milieu à la fois plus vivant et plus durable. J'utilise peut-être un peu trop ce mot, mais c'est vraiment l'idée d'arriver à augmenter juste le fait que nos villes soient pérennes dans le temps et pas seulement consommatrices de ressources et génératrices d'impact et notamment de pollution. Donc après, la question, c'est quel espace vert on développe, comment est-ce qu'on le conçoit et où est-ce qu'on va le placer en ville pour arriver à une ville qui soit réellement résiliente et durable. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir ces photos-là. On a eu tout à l'heure la vision de Paris en 2050. Je pense qu'à peu près, peut-être mon point de vue naïf, mais à peu près tout le monde sera d'accord pour que la ville de demain soit une ville verte, en tout cas sur les perspectives d'architectes. C'est très souvent, on a du vert absolument partout, c'est magnifique, ça donne envie. La vraie question derrière, c'est quelle technologie on met et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle, nous, sur nos recherches, en étudiant ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est-à-dire qui sont concrètement des bénéfices environnementaux. Pour vous citer un exemple, donc sur un des projets de recherche dont on s'occupe, c'est regarder une ferme urbaine qui est installée à un endroit, quel potentiel elle représente en termes de services, c'est-à-dire combien d'eau elle va retenir, est-ce qu'elle peut stocker du carbone, combien elle produit d'aliments. Essayer de voir un petit peu l'impact de ces espaces pour derrière... essayer de voir comment est-ce qu'on peut optimiser ces avantages et voir les endroits où c'est le plus judicieux d'implanter. J'ai peut-être un peu trop dérivé.
Mais... Non, c'était très bien. J'ai utilisé... Ah oui.
So I was thinking about this because we have the architect's strategy, the scientist strategy, the big picture. But we also, on a very concrete and specific level, have individuals changing environments, vacant lot. When Detroit had so much trouble, buildings started to collapse, there were many, many vacant lots, and people began to garden them. And in some cases, these gardens are supplying massive amounts of fruits and vegetables for the people who live right in that area. It's local urban farming, but it's coming from individuals seeing a vacant lot and saying, why are we wasting this space? So we have both the top-down thinking, what does a building look like if it is a green, sustainable building? And we have bottom-up thinking, which is somebody saying, why can't I have chickens? I want to have chickens in my yard. What does it take to raise chickens and have my own eggs? What does it take to do my own gardening? And some of that's happening indoors, some is happening outdoors, but I think that these are operating simultaneously towards one another.
Alors je parlais de greenwashing parce qu'en fait, en faisant mes recherches d'images et pour la table ronde, j'ai en fait eu du mal à trouver des immeubles construits. Et j'ai même souvent eu l'impression, alors c'était la fondation machin, le truc, c'était à chaque fois des projets très, qui affirmaient une politique, mais j'avais du mal à en voir la concrétisation. Alors je sais que vous êtes sur la concrétisation, mais il y a un fantasme depuis quand même maintenant 20 ans sur ces sujets-là, et on attend les immeubles. Alors on a vu un immeuble, quelques immeubles en Italie, là, un au Japon, il y en a à Singapour, etc. Mais en fait, ils sont très très rares. Je ne sais pas si dans Nantes, qui a des constructions magnifiques partout, toutes neuves, s'il y en a un seul qui est d'immeuble vraiment en terrasse végétalisée. Quoi. Alors que en roulant en voiture, en venant, j'ai cherché de l'œil en me disant, il doit y en avoir plusieurs, donc je vais en voir un. Et c'est assez étonnant. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que ça va enfin se concrétiser ou on est pour l'instant dans une envie de mais pas d'une réalité?
Il y a quand même des réalisations concrètes. Bon, là, on en a vu quelques-unes pour les murs végétaux, par exemple, du Quai Branly, juste avant. Il y a des réalisations concrètes qui existent. Après, pourquoi est-ce que c'est que des fondations, etc. C'est pas très compliqué. C'est que c'est malgré tout un investissement financier. C'est clairement un surcoût au moment de faire le bâtiment. Après, désolé, je parle beaucoup des toitures végétalisées, mais pour faire comprendre le pourquoi les toitures végétalisées pourraient aussi se développer, c'est que notamment, bon, à la base, ça a été développé par des étancheurs, parce qu'en fait, les toitures végétalisées, du coup, permettent, du fait de créer un corps froid, en fait, sur le toit, de préserver la membrane d'étanchéité, et donc permettre de doubler, en gros, en moyenne, la durée de vie de la membrane, parce que ça évite des rayonnements solaires directs, et ça évite des écarts de température très forts. Donc, c'est un surcoût, il y a aussi certains avantages, mais malgré tout, ça coûte cher de faire ça. Et donc, tant qu'il n'y aura pas... c'est un peu une prise à partie ce que je fais, mais tant qu'il n'y aura pas des aides ou en tout cas un encouragement à le faire, on restera sur des petites touches de verre qui seront très intéressantes, mais qui resteront anecdotiques, parce que pour se développer à large échelle, il faut à un moment donné qu'il n'y ait pas que des contraintes, mais qu'il y ait aussi une incitation à le faire. Et pour l'instant, on n'a pas, en tout cas en France, on n'a pas totalement...
C'était pas au programme des accords de Paris ou ce genre de choses?
Je ne saurais pas dire pour les accords de Paris. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau mondial, il y a les objectifs qui ont été fixés sur des questions de vie durable, un horizon 2030 et 2050. Ces mécanismes, après, les encouragements, ils doivent plutôt se faire au niveau national ou au niveau régional, voire même des villes. Il y a par exemple l'exemple de Bâle en Suisse qui a mis une obligation réglementaire de végétaliser un certain nombre de toitures, etc. Donc la question vraiment, c'est, bon, une fois de plus, comment est-ce qu'on construit ces espaces? Mais ensuite, quel mécanisme on met en place et que ça soit à plusieurs niveaux pour faire en sorte que ça soit développement des toitures ou même de parcs au sol soit favorisé ou soit permis? Un certain nombre de fermes urbaines qui s'installent aujourd'hui sont des projets qui plaisent beaucoup, qui ont beaucoup de succès, mais qui, au bout de 3 ans, 4 ans, peuvent péricliter parce qu'ils ont une instabilité foncière, il y a un coût du foncier qui est trop important. Donc on a vraiment là-dessus besoin d'inventer et de mettre en place des systèmes qui permettent de pérenniser un certain nombre d'installations de végétalisation, qu'ils soient agricoles ou non.
Je pense que du coup, en fait, justement, c'est les collectivités qui prennent ça. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt les collectivités qui prennent ça en main à différentes échelles, hein, que ce soit la ville, la communauté de communes ou autre chose. En particulier par les outils. Enfin, ils prennent en main les PLU, là, les plans locaux d'urbanisme, par exemple, où ils commencent à installer des choses. Je vois de plus en plus de collectivités qui décident de modifier la codification, le fonctionnement. Et puis on voit apparaître dans les marchés publics, donc on les appelle d'offres pour construire des bâtiments, l'obligation finalement d'y inclure de la végétalisation. Donc peut-être qu'on va voir arriver ces bâtiments. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Il faut voir aussi donc, quand ça s'est mis en place, toutes ces incitations, combien de temps il faut pour construire ces bâtiments, les surcoûts qui arrivent toujours en cours de route. Parce qu'en fait, sur ce genre de choses, les surcoûts, on sait bien comment ça a toujours un surcoût sur une construction. Et puis, comme disait Baptiste, les incitations, elles peuvent aussi passer par des subventions ou par des... Tu as parlé de Bâle, mais par exemple, aux États-Unis, on sait qu'il y a certaines fermes extrêmement connues qui ont bénéficié de subventions pour leurs services rendus à la ville, justement la rétention d'eau. ce qui a aidé la Brooklyn Grange, par exemple, à New York. C'est un des exemples concrets que tout le monde cite parce que c'est un des seuls où on est sûr de connaître un peu ce qui a été versé, comment ça a été aidé, etc. Sur les toitures végétalisées, effectivement, c'est de... Alors peut-être en plus on ne les voit pas forcément, déjà. Bon. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, sur de plus en plus d'hôtels un peu chic, ça fait le petit plus. Ou sur tout ce qui va être créé, son propre parc immobilier ou des nouveaux immeubles, c'est le petit plus qui va pouvoir permettre de vendre l'appartement plus cher ou le loyer un peu plus, etc. Donc peut-être par ces incitations-là, on va commencer à voir apparaître ces choses-là. Je vois sur les ANRU, c'est tout ce qui est de renouvellement urbain, sur la partie des bailleurs sociaux et compagnie, il se pose de plus en plus la question aussi d'investir sur une partie, une dimension végétalisée, alors soit que ce soit sur les toits, soit au pied d'immeubles. Mais voilà, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus à des échelles plus locales que les choses se mettent en place et se développent. Et puis, ça dépend des sensibilités, finalement, du coup, des responsables locaux, clairement.
On va peut-être s'attaquer aux fermes elles-mêmes, puisque c'est votre cœur de métier. Surtout que le diaporama arrive à ce moment-là.
Ça, justement, juste pour la parenthèse, c'est la ferme dont parlait Agnès, c'est la Brooklyn Grange à New York. Et donc, ce que disait Agnès, c'est qu'elle a été subventionnée, en l'occurrence, par le département de la protection de l'environnement de la ville de New York, à hauteur donc, de 600 000 dollars ou 700 000 dollars, pour justement le fait qu'il retenait l'eau et que sur le quartier de Brooklyn, il y a énormément d'enjeux d'érosion des sols. Et donc, la ville a considéré que le fait que cette toiture qui est installée retienne de l'eau, donc permette de contrecarrer pour partie ce problème d'érosion des sols, était quelque chose qu'elle devait subventionner. Bon, pour être honnête, ils avaient aussi envie d'encourager le développement du projet, mais ça n'empêche, c'est un des seuls exemples pour l'instant de fonction environnementale qui a été financée à ce titre.
Alors, il y a des photos un peu partout, on a vu Paris aussi, c'est des, je crois
c'était le toit du Bajou,
j'ai pas vu. C'est Boulevard Haussmann, je crois. Enfin,
oui, bah, c'était voilà. Société
Paris. On est à Chicago, c'est vrai qu'il y en a énormément qui se développent un peu partout.
C'est une association qui s'appelle Veniverdi, donc à Paris, qui est sur un toit, là, en l'occurrence, qui est le toit d'un collège. Qui est le toit du collège Henri Matisse qui a maintenant été transformé. Peut-être juste sur l'agriculture urbaine, moi je serais assez pour rapidement avoir les questions des gens, mais juste être deux mots et tu me complètes ou tu me corriges, mais donc l'agriculture urbaine, juste en une description rapide, on va dire qu'à l'heure actuelle ça se développe dans à peu près tous les interstices de la ville, c'est-à-dire que ça va de caves ou de parkings dans lesquels on fait pousser des endives ou des champignons, à des jardins au sol, type jardin partagé ouvrier relativement entre guillemets classique, à des murs végétalisés pour faire pousser du houblon, jusqu'à des toitures sur lesquelles on va mettre des serres ou des systèmes sans sol ou avec sol. Donc il y a une diversité de formes relativement importante de l'agriculture urbaine. Et dans ce cadre-là, et juste nous, donc, dans le cadre de nos travaux de recherche, moi en particulier, donc, on s'intéresse à des fermes qui sont soit au sol, soit sur les toits, qui utilisent du sol ou un équivalent sol, et qui posent un certain nombre de questions, de par déjà le modèle économique qu'elles peuvent développer, l'organisation qu'elles ont, la gestion agronomique qu'elles ont mis en place, et également le fait que dans bon nombre de ces fermes, soit on a une problématique de sol pollué, parce qu'on est en ville et donc un bon nombre de sols urbains sont pollués, soit on a une problématique de recréation de sol, ce qui était d'ailleurs le sujet de ma thèse. Et donc nous, ce qu'on essaie de voir, c'est donc sur ces sites particuliers sur lesquels on a des problématiques fortes de pollution, de recréation de sol ou autre, voilà, quels sont les avantages et les bénéfices qu'on peut en attendre. Je sais pas si je suis...
Oui, je pense qu'on va passer aux questions, parce que c'est un sujet très riche, et autant que ce soit le public qui guide maintenant le... Donc, est-ce qu'on a les micros dans le coin ? Trop là. Monsieur Micro. On va revenir sur le...
Non, s'il n'y a pas de micro, en fait.
S'il n'y a pas de micro, ça va être compliqué.
S'il n'y a pas de micro. Non, ils sont en train de s'activer au fond, je pense que ça va arriver. Ah bah quand on parlait de banlieue, vous voyez, vert et gris.
Ah, voilà. Oui.
Là on est aux USA. Je crois qu'après j'en ai mis une en région parisienne en fait. Voilà, là on est près d'Orly.
Ça me fait mal en fait. Ça.
Oui, ça fait mal, hein. Ouais. Et puis je crois que j'ai mis Paris après où on voit les tranchées vertes en fait sur le centre historique. C'est bon.
Bonjour. Moi, il y a quelque chose qui m'a pas mal dérangé là depuis le début de la conférence, c'est que le mot de gentrification n'a jamais été prononcé. Et ce qui a été représenté pour moi, c'est plutôt une dystopie en fait. Et notamment, il y a une photo que vous avez montrée que je trouve particulièrement parlante. On voit cette espèce d'intérieur de travail qui en bois, qui donne sur un jardin, mais c'est un open space. Et l'open space, c'est une violence salariale et ça crée des souffrances au travail qui sont énormes. Et du coup, à quel prix on veut végétaliser et surtout pour qui, enfin, qui c'est qu'on brosse dans le sens du poil, quoi.
Alors, je vais peut-être me répondre tout de suite. Effectivement, quand je disais que mettre du verre, ça fait payer plus cher, on est d'accord, il n'y a pas de mystère. À côté de ça, quand je vous ai dit sur le renouvellement urbain, c'est aussi les bailleurs sociaux, donc c'est les HLM aujourd'hui, qui s'emparent de la question et qui cherchent à mettre par exemple des jardins au pied d'immeubles, histoire de justement recréer un lien social. Alors, ça marche ou ça ne marche pas, mais il y a des cas où ça a été fait et ça marche effectivement. Ce n'est pas forcément impressionnant, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question de gentrification qui va se poser. Et en même temps, c'est, comme disait Kija, c'est aussi quelque chose qui est pris en main par le bottom-up. Donc des gens, par exemple, l'exemple qu'on prend toujours, c'est Detroit, catastrophique, chômage, etc., et espace inutilisé, et installation, dans ces cas-là, de gens qui se remettent à produire pour se nourrir. Parce qu'il est impossible de trouver de la nourriture. Enfin, parce que les déserts alimentaires, c'est pas une blague, dans ces gens particuliers par là-bas, et donc ça reste une réponse. Alors il y a peut-être plusieurs, il y aura certainement une agriculture ou une végétalisation à plusieurs vitesses. Certes, celles qui seront à destination des gens qui ont besoin de nourriture. Là, je disais, il y a un documentaire qui est passé il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui produit en fait, et son rab de production, il le met sur une table pour ses voisins parce qu'il est dans une zone défavorisée et ses voisins ont du mal à se nourrir. Donc du coup, il donne la nourriture en plus. Donc il y a seulement des initiatives individuelles, des initiatives de bailleurs sociaux ou de collectivités. Et puis, à côté de ça, il y a toute la dimension mercantile, finalement, de profiter de cet engouement pour le verdissement pour rajouter une couche de gentrification sur la zone. C'est sûr. Mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles.
C'est un complément très rapide, mais du coup, merci pour la marque. Et en effet, c'est très clairement, beaucoup de projets d'agriculture urbaine sont une des illustrations de phénomènes de gentrification de beaucoup, beaucoup de quartiers. Après, je pense qu'il faut bien distinguer le fait que, comme disait Agnès, il y a un phénomène de mode actuel qui met l'éclairage sur beaucoup de projets qui sont en effet illustrateurs de phénomènes de gentrification. Pour autant, il y a encore énormément, et c'est pas la majorité des projets qui sont du coup comme ça, il y a encore énormément de projets qui ont avant tout une vocation sociale, qui sont dans des quartiers pas forcément favorisés. Donc je pense qu'il faut bien distinguer le phénomène médiatique qui fait qu'on éclaire certains projets dans une start-up nation et ensuite la réalité concrète du terrain où on a bon nombre d'associations qui ont avant tout une vocation sociale, pédagogique et pas forcément, qui sont pas forcément mises en avant. Enfin, juste pour pondérer peut-être un peu. Mais c'est sûr que médiatiquement, à l'heure actuelle, l'éclairage n'est pas mis là-dessus.
Typiquement, ça, c'est pas du tout pour gagner de l'argent. Enfin, honnêtement, la Ferme du Bonheur, par exemple, qui a la défense sur une dalle d'autoroute, récupération de zones totalement polluées, c'est une démarche totalement sociale. Sociologique et poétique en plus. Alors pour le coup, on est vraiment. Mais voilà. Donc il y a des exemples là. Vous verrez dans les photos des exemples de choses qui sont pas. Et à l'inverse, là, on est sur du mercantile. Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
On a vu pas mal de toits végétalisés, les jardins de Babylone. Il me semble que ça répond pas à un problème. Qu'en est-il de la connectivité écologique?
C'est une très bonne question. Donc, à l'heure actuelle, donc, un des enjeux justement, c'est donc au niveau des SCOT, donc schéma cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme, il y a une volonté d'intégrer un certain nombre d'espaces verts dont les toitures utilisées font partie dans une optique donc de connectivité de ces espaces. Pour être honnête, sur les toitures végétalisées, c'est encore un énorme enjeu de recherche. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de théories qui soit prônent le fait que ces toitures font partie d'un réseau d'espaces verts et donc sont connectées au reste. Dans une idée un peu de pas japonais, ou au contraire des théories sur le fait que c'est des îlots relativement isolés qui ne permettraient pas aux espèces de se développer et de faire leur cycle de vie en ville, mais qui au contraire appauvriraient un petit peu la diversité, puisqu'une fois qu'une espèce arriverait sur le toit, elle resterait là et du coup ne pourrait pas se disperser. Pour être honnête avec vous, c'est un débat qui n'est pas du tout tranché. Ce qu'on sait simplement sur les toitures végétalisées, c'est qu'il y a, notamment de par les travaux de thèse, un certain nombre d'espèces relativement rares et de milieux, par exemple, secs, qui ont été retrouvées. Donc on sait que ces espaces-là peuvent permettre, en tout cas, des espèces, y compris des espèces protégées, notamment, par exemple, d'araignées ou autres, de faire pour partie leur cycle de vie. Après, sur la question de la connectivité, on n'a pour l'instant quasiment aucune certitude. Et il y a le mythe d'avoir un mur végétalisé qui est ensuite connecté à une toiture, qui est connecté ensuite au parc. Ça, c'est pour l'instant quelque chose qui n'est pas vérifié pour la plupart des espèces. Et juste une pondération de propos, c'est que c'est très dépendant, bien sûr, du type d'espèce dont on parle, entre le pollinisateur et les arthropodes en plein sol. Mais pour autant, à l'heure actuelle, c'est vraiment un débat en cours sur la réelle connexion de ces espaces entre eux et l'opportunité d'avoir des corridors verts en ville, de ce point de vue-là. Je ne sais pas si je réponds.
Bonjour, je vois que certains ont des appareils photo Canon. Bah, sachez que Canon investit massivement dans les fermes hydroponiques. Alors ma question est celle-ci. La solution à éviter les pesticides, insecticides, herbicides comme le méthane sodium, la solution, ce n'est pas pour manger vraiment bio, c'est la ferme hydroponique urbaine. Et en plus, quand on est locavore, eh bien, on habite au 10e étage et on va à la cave acheter sa salade sans pesticides. Merci.
Du coup, la question, c'est est-ce que c'est une vraie solution
pour... Est-ce que c'est la vraie solution pour éviter tous les produits chimiques, la chimio dans l'alimentation?
Oui, c'est ça. Parce que donc, l'hydroponie, donc, c'est comme ça que sont produits 80% des tomates qu'on a en supermarché à l'heure actuelle. C'est une technique donc, qui est sans sol, c'est-à-dire que vous mettez votre plant de tomate, par exemple, dans un support qui est inerte, donc qui est soit de la laine de roche. Donc vous avez votre plante de tomate qui est dans la laine de roche et vous allez, donc ça ne délivre aucun nutriment, ça ne nourrit pas votre plante, et vous apportez la nourriture à votre plante, en gros, en lui apportant de l'eau mélangée avec des engrais, en général minéraux. Est-ce que c'est la solution? Je ne vais pas me lancer dans les devinettes. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, en France, c'est une forme qui est relativement peu développée. Par contre, aux États-Unis ou dans des villes, par exemple, comme Singapour, on a des fermes en hydroponie qui se développent et qui ont réellement une pertinence sur des territoires où il y a, par exemple pour Singapour, un enjeu énorme d'accès et de foncier, et sur lesquels, sur ces territoires-là, c'est des projets qui marchent et qui répondent vraiment à une problématique. En France, juste du coup sur ce problème d'approvisionnement alimentaire, en France, je ne suis pas sûr qu'on ait cette problématique-là. À Paris, par exemple, on a quand même 50% de terres agricoles dans la région, donc on n'a pas forcément de problème directement d'accès au foncier. Ensuite, l'autre question, et la vraie question que pose l'hydroponie, c'est la consommation énergétique et la durabilité du système. Et là-dessus, le problème, c'est qu'on a relativement peu de transparence de la plupart des systèmes mis en place en termes d'accès aux données sur quelle énergie est consommée, quels matériaux sont utilisés. On a des projets qui marchent, mais dont on ne connaît pas bien l'impact réel d'un point de vue environnemental. Et par exemple, Loufa Farm à Montréal est un des projets phares en termes d'hydroponie, donc c'est des serres sur les toits d'un bâtiment de bureaux de supermarché qui distribue des paniers donc à des loufavores dans la ville de Montréal. C'est un projet qui marche très bien, mais d'un point de vue impact environnemental, pour le moment, ils ont relativement peu nourri à la fois la littérature scientifique ou même juste en termes d'information grand public. On a une transparence qui est relativement faible, donc qui ne permet pas forcément de juger de la durabilité de ce type de projet.
Bonjour. Ici. C'est juste, vous avez parlé pas mal de maraîchage et du coup de produire de la nourriture par exemple dans la ville. Mais bon, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont un potager, mais concrètement, même en utilisant tous les interstices urbains qui sont à votre disposition, vous nourrirez jamais une ville. Donc c'est quoi le réel intérêt de produire de la nourriture? Parce que tant qu'à avoir des espaces verts, autant que ce soit agréable et pas forcément de la production dans ce cas-là, et que la production soit réservée à ailleurs, quoi. Parce qu'en ville, on ne produira jamais ce qu'on mangera. Voilà.
Alors, en ville, on ne produira jamais tout ce qu'on mange, c'est sûr. Là, d'ailleurs, une des diapos qui est passée, tu avais mis 3%, c'est ça? Alors, certaines estimations mettent 10%. Bon, de toute façon, on sait très bien qu'on ne nourrira jamais la ville. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut y mettre que... Et puis, pourquoi on n'y mettrait pas de la nourriture quand même? Enfin, après, ça dépend. Il y a une bonne partie des gens... Sur ces 3% ou sur cette surface, en fait, il y a des gens qui... Il y a une raison pour laquelle, finalement, plus que les espaces verts, ce qui progresse énormément, ce qui a énormément d'envie, finalement, des citoyens, c'est les jardins partagés. Les gens, ils ont envie d'aller produire leurs propres carottes, même s'ils produisent 3 carottes par an. C'est le plaisir de voir la carotte. C'est le plaisir aussi de voir montrer aux enfants la partie, la dimension éducative, de montrer, en fait, de retrouver que ces enfants qui sont en ville, soyons honnêtes, moi, j'ai des enfants qui ont été éduqués à Paris... C'est pas eux qui ont vu, ils ont été à la ferme de l'école pour aller voir une vache, quoi. Mais savoir comment, ce que c'est qu'un petit pois, à quoi ça ressemble, savoir différencier une courgette d'un concombre, Et pourquoi et à quoi ça ressemble. Donc cette dimension éducative, cette dimension finalement sociale aussi, de la relation sociale entre les gens, elle est extrêmement importante. Et je ne sais pas si elle passerait autant par faire pousser des primes vertes que faire pousser des carottes. Il y a une dimension, un lien finalement à l'alimentation qui est peut-être plus fort.
I think that's exactly what needs to happen. We're not going to feed everybody in a city with gardens unless we substantially restructure cities in ways that we're not currently prepared to. But the town I live in Kansas, in the middle of the United States, every school has turned its lawn into a garden. And they're growing their own food. And it's not enough, of course. You know, they still bring in food for lunch and they're not growing pigs or anything. But the principle behind it is that, and actually grown-ups, adults do a lot of the work, but the children put their hands in the dirt, they plant the seeds, they see the carrot come out. They're so excited about having been part of the food chain that one of the schools actually produced more food than it needed. It was going to go bad before they used it all up. And they sold it to a restaurant. And they were so proud of themselves that they had become farmers, they had become industrialists. But what it's really all about is just retraining them. These are people who live in a state that is all agriculture, but the children growing up in this town hadn't ever grown anything. And so this was all about retraining them that food comes from the ground, food comes from outside of the grocery store. And it's actually, it'll be interesting to see what happens in the next 10 years when these children are 24 and 25 and getting out of university.
On parlait de connecter les zones vertes entre eux, mais connecter l'homme à la zone verte, c'est pas une mauvaise idée.
Juste pour, très rapidement, mais pour compléter, sur la plupart des projets qu'on suit, en fait, la fonction alimentaire, et c'est pas le cas pour tout ça, mais est souvent anecdotique, et c'est souvent une activité sociale, pédagogique qui complète. Mais après, si après tout, la solution ou ce que veulent les gens, c'est qu'on développe des parterres de fleurs à couper ou des parterres, peu importe, parce que la limite, ce qu'on en attend, c'est à voir quelle fonction on en attend, et si c'est espace de rente, si c'est pas la production alimentaire que les gens veulent. À la limite, peu importe quoi.
Oui, bonjour. J'ai entendu dire que Cuba était passé à presque une autonomie alimentaire dans les années 90 en pratiquant justement de la culture urbaine. Est-ce que c'est un pays que vous étudiez? Est-ce que vous avez des contacts? Donc c'est viable depuis 30 ans? Est-ce qu'ils ont déjà tout fait? Il n'y a plus de recherche à faire. Enfin, je me pose la question de l'état des lieux de Cuba, quoi.
C'est un exemple dont on entend beaucoup parler. Je connais pas grand-chose sur cet exemple. J'en ai déjà entendu parler, mais sur le fond, je maîtrise pas bien. Simplement, ce que je pourrais dire, c'est que je pense qu'il faut apporter une pondération par aussi la situation économique et les leviers qui ont poussé les gens à faire ça. Mais d'un point de vue technique, de culture et autres, c'est évident qu'il y a des choses très inspirantes, en tout cas d'un point de vue agronomique, sur notamment la gestion de la fertilisation, l'intensité, l'association d'un certain nombre de plantes. Il y a très clairement, d'un point de vue agronomique, des choses à en retirer. Je pense qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Nous directement, non. Mais en tout cas, c'est un exemple dont on peut s'inspirer.
En fait, dans tous ces cas, en fait, qui sont des cas d'école, ce sont des cas qui ont été très médiatisés. Donc, je parlais de Détroit, donc il y a Cuba, qui sont des exemples. On dit que ça marche. Moi, les derniers articles que j'ai lus, c'est que ça marche, mais c'est pas non plus transcendant. Alors, je vois pourquoi. Il y a des questions aussi politiques qui se posent. Je sais que sur la partie de Cuba, il y a des questions de propriété. Enfin, c'est pas si simple hein, sur savoir à qui et comment, à qui. Qui profite le crime, qui va la nourriture, qui l'a produit, etc., et comment c'était financé, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, juste pour dire que c'est visiblement, c'est toujours pareil, au niveau de des publications, nous, on est scientifiques, hein, on aime bien lire des choses qui ont été relues, qui ont été validées, et là-dessus, moi, j'ai pas vu passer énormément de choses, et je me suis pourtant documentée sur un peu ce qui était dans le monde pour comparer ce qu'on trouvait en France. La deuxième chose aussi, c'est qu'on est à Cuba. On n'a pas du tout le même climat que chez nous. Donc il y a des tas de choses qu'on ne peut pas en fait importer directement ou appliquer directement chez nous. Très clairement, on est obligé à chaque fois, la science est obligée de remettre les expérimentations en place, de vérifier que ce qui se passe chez les autres, ça marche aussi chez nous dans nos conditions.
Oui, bonjour. Là, vous parliez beaucoup de nourriture et sinon tout à l'heure sur les l'isolation, l'économie énergétique, ça coûtait cher et du coup il y avait que des fondations qui se permettaient. C'est un peu de l'esbrouf, c'est beau, voilà. Mais par rapport, est-ce que vous avez des résultats sur le coût de l'entretien avec le tropisme des végétaux et vu que ça dégrade, est-ce qu'on veut contrôler la végétation aussi?
Pour pondérer un peu nos propos, on a quand même un petit peu caricaturé la situation. Il n'y a pas que des fondations qui font des toitures végétalisées. Sur les chiffres d'entretien, je préfère pas vous citer de chiffres comme ça. Par contre, je vous renvoie à notamment ce qui a été fait par l'ADIVET, qui est une association, en l'occurrence, autour des toitures végétalisées et qui a produit un certain nombre de documents, notamment grand public, sur les coûts d'entretien d'une toiture extensive, donc avec une épaisseur de substrat relativement faible et une végétation qui est plutôt... rase mucinale et des toitures qui sont avec une épaisseur de sol plus importante et une végétation plus diversifiée. Donc là-dessus, il y a déjà des choses qui existent sur les coûts d'entretien et le coût pour les personnes. Ça répond à votre... Est-ce que ça ? Et oui, ça peut motiver les entreprises, mais ce que je dis, c'est que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le delta de coût ne sera pas compensé que par les avantages, en tout cas dans le système actuel. L'avantage environnemental de retenir de l'eau, personne à l'heure actuelle ne rémunère par exemple ce service. Et ce qui est intéressant pour nous, notamment du point de vue de la recherche, c'est qu'aujourd'hui les acteurs de l'agriculture urbaine revendiquent par exemple le fait d'être payés pour un certain nombre de services écosystémiques rendus, donc de retenir de l'eau, de stocker du carbone, de valoriser des déchets qui viennent de la ville. Et la question que ça pose derrière, c'est ok, donc comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on quantifie? Comment est-ce qu'on vérifie que c'est réellement achevé et que c'est réellement effectué? Donc il y a une réelle opportunité. Après, il faut qu'on mette en place, comme on disait tout à l'heure, une structure qui permette de développer ça en se posant des questions de comment on fait ça, comment est-ce qu'on conçoit ces projets.
Et moi, je rajoute juste une petite couche de pub. Hein, parce qu'on a un guide sur les toitures végétalisées aussi, justement pour les bailleurs et pour les constructeurs, pour ceux qui veulent mettre en place les toitures végétalisées urbaines, qui va sortir au mois de décembre, financé donc à AgroParisTech par une chaire, en fait, une chaire d'entreprise. Donc voilà, si la question vous intéresse toujours, vous googlerez AgroParisTech toiture végétalisée, puis vous tomberez sur le guide.
Et là, c'est trop court, on va devoir s'arrêter. Petit dernier avis, est-ce que le corps de la ville, avec ses poumons verts, ses artères de circulation, son cœur commerçant, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est en voie de guérison, à votre avis? Positif, négatif, pour l'instant, votre impression de qu'est au cœur de la chose?
Très clairement, de mon point de vue, il est malade. Et donc, oui, après, à voir s'il est... soyons optimistes, il est en cours de guérison. Après, la guérison reste pour l'instant anecdotique par rapport aux problèmes que ça pose. Mais les outils sont là, les opportunités sont là. À nous de nous en saisir et de nous poser, en tant que citoyens, en tant que chercheurs, en tant qu'entrepreneurs ou autres, les bonnes questions et d'entreprendre des choses qui vont permettre de guérir un peu ce corps. Mais juste l'analogie du corps, je trouvais très intéressante parce que vraiment, ça renvoie des approches en termes de recherche sur le métabolisme urbain, des approches de flux dans la ville, etc. Et qui sont, je pense, des approches qui vont nous permettre un des outils vraiment utiles pour dépasser un certain nombre de problématiques.
Merci beaucoup.